Chapitre 28. Une fois encore, je m'efforçais de tirer mon oncle de sa mauvaise humeur. Nous marchions toujours, et moi je bavardais à n'en plus finir, lui posant mille questions sur les mers où il avait navigué, les dangers qu'il avait affrontés. Et ma foi, il semblait prendre plaisir, tandis que nous rentrions à la maison, à me parler des îles tropicales qu'il avait visitées, des mystérieuses cargaisons qu'il avait transportées, et de tous les gens bizarres qu'il avait rencontrés. Je ne pouvais cacher mon exaltation. « Quelle aventure! Et vous étiez tout jeune quand vous êtes parti? Je devais être à peine plus âgé que toi lorsque j'ai entrepris ma première traversée. Et vous avez croisé des indigènes, comme ceux qu'on voit dans les livres? Des hommes avec des os dans le nez? Des tribus avec des arcs et des flèches? Tout cela est bien pire. On ne sait pas ce que c'est que de courir tant qu'on n'a pas tenté d'échapper à une flèche empoisonnée. » Il me sourit. « Oui, j'ai esquivé des sagaies. Je suis tombée dans des pièges, et je me suis même retrouvée un jour suspendue dans un arbre, la tête en bas, à tourner sur moi-même, la cheville entourée d'un nœud coulant confectionné avec des planches grimpantes. Je lui dis très franchement, moi je serais mort de peur. Il haussa les épaules. C'est stupide de se laisser effrayer par les choses de ce monde. Mieux vaut garder ses angoisses pour les terreurs plus étranges. » Et il reprit son récit, me parla de tam-tam et de chants inquiétants, de poulets sacrifiés et d'autels couverts de sang. Il me parla d'hommes portant des masques effrayants et de minuscules statuettes taillées dans des racines ou façonnées dans l'argile, ou encore de prêtres nus qui invoquaient leurs ancêtres et chantaient pour jeter des sorts. Quel genre de sorts? De tout, des sorts pour faire venir l'amour ou le détruire, des sorts pour rendre des gens malades ou les expédier dans l'au-delà, des sortilèges de vengeance. Pourtant, d'après Mrs. Marlowe, ce ne sont que des croyances primitives, des sornettes. Elle dit que ces sortilèges n'ont aucun pouvoir. « Eh bien, elle se trompe !» coupa-t-il sèchement. Il se reprit instantanément. « Tu sais, ta mère elle-même admettait que nous ne pouvions pas comprendre tout ce qui nous entoure. Je me souviens avoir entendu Liliana dire certaines choses que ta Mrs. Marlowe aurait trouvées bien étranges. » Peut-être comprit-il enfin qu'à chaque fois qu'il mentionnait ma mère, je me murais dans le silence. Et c'était partiellement vrai. Un souvenir me revenait. Ma mère entrait dans ma chambre avec un de ses livres de la bibliothèque du rez-de-chaussée qui sentait le moisi. Il s'intitulait « Conte des îles Caraïbes ». J'avais passé des heures plongée dedans, fascinée par ses gravures représentant des arbres tortueux dans des mangeoires et des forêts luxuriantes tapissant des vallées entourées de montagnes. J'avais lu les descriptions de ces vents humides, les alizés et des ouragans les plus fous, des paresseux et des crocodiles. J'avais été captivée par les récits pittoresques de cérémonies de sorcellerie, d'envoûtement et de magie. Ce livre avait été mon livre de chevet pendant des semaines. Mais comme tous les autres, il avait fini par retourner dans la bibliothèque. Il était passé à autre chose. Dans ma mémoire, les dernières images que j'avais vues et les dernières phrases que j'avais lues s'estompaient peu à peu. Mais bientôt, j'effaçais l'écran noir de mes souvenirs pour lui poser d'autres questions. C'était plus fort que moi. J'avais vécu une enfance tellement insipide que je voulais le presser encore de me raconter les batailles qu'il avait vécues, les navires sur lesquels il avait navigué. Et la matinée passa ainsi. À midi, j'avais l'impression que mes pauvres jambes allaient se casser comme du verre. Alors il me ramena à la maison et m'annonça qu'il déjeunerait seul. Martha va m'apporter un plateau dans mon bureau. Je te retrouverai lorsque l'on sonnera le dîner. Il soupira. Jusque-là, je vais m'atteler à mes comptes comme d'habitude. Et toi, je suis sûre que tu dois avoir une lettre à écrire à ceux dont la gentillesse nous a miraculeusement rapprochés. Une lettre à écrire? Au fond de moi, j'étais toujours convaincue que je retournerais bientôt dans ma chère famille Marlowe, et que ma lettre, si j'en écrivais une, arriverait bien après moi. Seulement, mon oncle avait tout fait pour m'être agréable et me faire découvrir ma nouvelle demeure. La moindre des courtoisies était donc d'acquiescer et de demander du papier à lettre et un stylo. Le capitaine monta les escaliers 4 à 4. Je le suivis beaucoup plus lentement et entendis une fois encore le petit bruit métallique avant qu'il n'ouvre sa porte. Il n'avait donc pas remarqué qu'à cause de sa légère surdité, les réponses murmurées et des pas feutrés lui échappaient. Et il n'entendait pas non plus ce petit bruit qui révélait où il cachait la clé de ses appartements. Je restai poliment en retrait, faisant mine d'admirer une tapisserie, pendant qu'il entrait et refermait la porte vivement derrière lui. Lorsqu'il ressortit, il me tendit un petit encrier, un gros stylo à plumes et un bon paquet de feuilles de papier. « Voilà, déclara-t-il, maintenant tu peux écrire tes mémoires comme ta mère. »« Ma mère ? Tu ne le sais donc pas? Quand elle n'était pas en train de flâner dehors ou de jouer à l'écureuil, on retrouvait toujours Liliana accroupie dans un coin à griffonner ses petits secrets. Il sourit et verrouilla sa porte. Et moi aussi, je dus sourire, jusqu'à ce que je parvienne devant la porte du grenier. Malgré mon épuisement, je m'obligeai à gravir l'escalier, puis à marcher jusqu'à ma chambre. Une fois à l'intérieur, je m'effondrai contre la porte et me mis à sangloter. Sangloter, le mot est bien faible. C'est un torrent de larmes qui jaillit de mes yeux, une explosion de rage. C'était ma mère à moi, et tout ce que l'on me racontait sur sa vie et son caractère, je l'ignorais, alors que j'étais son fils. Je pleurais, pleurais toutes les larmes de rage, ne m'interrompant qu'au moment où j'entendis un bruit de pas pesant dans l'escalier, puis une vieille voix cassée de l'autre côté de la porte. « Daniel ?»« Martha. » Elle frappa une fois, deux fois, mais je ne dis rien. Je m'appuyai encore plus fort contre la porte pour l'empêcher d'entrer. J'entendis le petit bruit que fit le plateau d'étain quand elle le posa par terre. Mais je ne réagis pas. Je ne sais combien de temps je restai là, mais je ne me relevai que lorsque je n'eus plus une seule larme à verser. C'est alors que je découvris un nouvel outrage. On avait fouillé mon sac. Était-ce mon oncle, quand j'étais sortie seule de la maison le matin même? Ou Martha, qui me dévisageait comme si j'étais un fantôme et mes pieds sans cesse? Ou encore ce jardinier trapu qui avait semblé nous suivre dans notre promenade à travers bois. Lequel des trois avait soulevé si précautionneusement ces piles de vêtements pour les remettre exactement telles qu'elles étaient, avec les manches soigneusement pliées? En tout cas, je tenais la preuve que ma chambre avait été visitée, mais le fouineur ou la fouineuse ne saurait jamais comment je l'avais deviné. Jamais n'imaginerait qu'un garçon aux yeux bouffis par les larmes remarquerait que les boules de papier journal bourrées dans les souliers annonçaient un carrosse en ruine au lieu de inauguration du grand théâtre, et déception des électeurs là où on pouvait lire auparavant un ministre du nouveau gouvernement souffrant. Ce détail m'avait suffi pour comprendre que l'un des habitants de cette maison avait été jusqu'à fureter au fond de mes souliers neufs. Une fois de plus, la colère voulut prendre le dessus. Je ne resterai pas une nuit de plus dans cette maison. À quoi bon? Mon sac était déjà fait, et même refait. Avec les quelques shillings que j'avais en poche, je pouvais aller jusqu'à Londres. J'avais la carte de visite de l'ami du docteur. Il me prêterait de l'argent pour le voyage au retour. Et sinon, eh bien, je m'en dirais pour manger et ferais le chemin à pied. Pourquoi ne pas abandonner tous ces mystères et reprendre ma vie d'avant? Mais l'instant d'après, je me dis, quelle vie est-ce là? Jusqu'au jour où le docteur Marlowe m'avait pris chez lui, ma vie était une page blanche, comme si je n'avais jamais vécu. Qu'avait dit le capitaine en me tendant du papier et un stylo? Maintenant, tu n'as qu'à écrire tes mémoires. La bonne blague, puisqu'on m'avait élevé de telle sorte que je n'allais jamais nulle part, ne rencontrais jamais personne et passais tout mon temps au lit. Ici, j'avais une chance unique de découvrir pourquoi ma mère m'avait tenu coupée du monde, au point que personne ne connaissait mon existence, presque jusqu'à sa mort. Étais-je trop heureux pour saisir cette chance et donner corps à ma vie passée? Non, j'allais le faire courageusement, et ensuite je partirais rejoindre la famille que j'avais appris à aimer.